RCF.
Bonjour à toutes et à tous. Entrez dans le grand théâtre à ciel ouvert. Nous sommes sur les bords de la Méditerranée, sous un ciel bleu. On entend le bruit des vagues au loin. Vous êtes avec les neveux de René. Une émission consacrée à la découverte des textes classiques de la philosophie. Et après avoir discuté de science, notamment avec les textes de Jean-Marc Lévy-Leblon, nous en étions arrivés à la question de l'éthique, à savoir comment l'homme doit-il agir dans un monde qui est dominé par la science, ou plus exactement par la technoscience. Et aujourd'hui, nous allons essayer de creuser cette question de l'éthique, non pas avec un texte philosophique, mais avec quelque chose qu'on pourrait appeler une pièce de théâtre, mais qui est peut-être plus du ressort de la poésie, également de la danse et de la musique. Alors, donc, vous êtes avec à ma gauche Nicolas Lemoine, Anne Bonneau, et à ma droite Sylvain Contasso-Vivier, et je suis Nazim Fattès. Et sans trop tarder, nous allons découvrir cet extrait que la plupart des auditeurs, je pense, reconnaîtront. Donc nous sommes en Grèce antique.
Tu es mon sang, ma sœur Ismène, ma chérie. Tu sais tous les malheurs qu'Œdipe a légués aux siens. Mais en sais-tu un seul que Zeus ne tienne pas à consommer ici, de notre vivant même? Il n'est pas de chagrin, voire de désastre. Il n'est pas de honte. Il n'est pas d'affront que je ne vois ainsi porté à notre compte, à nous deux, toi et moi. Aujourd'hui même, qu'est-ce encore que cette défense que le chef a tout à l'heure proclamée au pays en armes? En sais-tu quelque chose? En as-tu perçu un écho? Ou vraiment ignores-tu que le malheur est en marche et que ceux qui nous haïssent visent ceux que nous aimons?
Mais non, de ceux que nous aimons, je n'ai, moi, rien entendu dire, Antigone. Rien qui apaise ni avive ma peine, depuis l'heure où, toutes deux, nous avons perdu nos deux frères, morts en un seul jour sous un double coup. L'armée d'Argos est partie cette nuit. Je ne sais rien de plus, et rien n'est venu ajouter pour moi ni à ce succès ni à ce désastre.
J'en étais sûre, et c'est bien pourquoi je t'ai emmené au-delà des portes de cette maison. Tu dois être seule à m'entendre.
De quoi s'agit-il donc? Quel propos te tourmente? C'est clair.
Certes, juge-en. Créon, pour leurs funérailles, distingue entre nos deux frères. À l'un, il accorde l'honneur d'une tombe, à l'autre, il inflige l'affront d'un refus. Pour Éthéocle, me dit-on, il juge bon de le traiter suivant l'équité et le rite, et il l'a fait ensevelir d'une manière qui lui vaille le respect des ombres sous terre. Mais pour l'autre, Polynice, le pauvre mort, défense est faite, paraît-il, aux citoyens de donner à son cadavre ni tombeau, ni lamentation. On le laissera là, sans larmes ni sépulture, proie magnifique offerte aux oiseaux affamés en quête d'un gibier. Et voilà, m'assure-t-on, ce que le noble Créon nous aurait ainsi défendu, à toi comme à moi. Il viendrait même en personne proclamer ici expressément sa défense, pour ceux qui l'ignorent encore. Ah, c'est qu'il ne prend pas la chose à la légère. Aux rebelles, il promet la mort, la lapidation sur notre acropole. Tu connais les faits. Tu vas, je pense, nous montrer sans retard si tu es digne de ton sang ou si, fille de brave, tu n'as qu'un cœur de lâche.
Mais, malheureuse, si l'affaire en est là, que puis-je, moi? J'aurais beau faire, je n'y gagnerai rien.
Vois si tu veux lutter et agir avec moi.
Hélas, quelle aventure! À quoi vas-tu penser?
Aideras-tu mes bras à relever les morts?
Quoi? Tu songes à l'ensevelir? En dépit de la défense faite à toute la cité?
C'est mon frère, et le tien, que tu le veuilles ou non. J'entends que nul ne soit en droit de dire que je l'ai trahi.
Merci Anne, merci Sylvain. Voilà, donc ça c'est le commencement de la pièce Antigone. De Sophocle, effectivement, puisqu'il existe une Antigone d'Anouilh et sans doute d'autres Antigones encore. Sophocle est né en 497 avant Jésus-Christ. Il est mort en 405. Ce n'est rien de dire que c'est un auteur capital, oui, pardon.
C'est un contemporain de Socrate, à peu près.
C'est un contemporain de Socrate. Alors... tout de suite, on va entrer en dialogue avec cette œuvre, de la même façon que nous étions entrés en dialogue avec l'œuvre de Camus qui s'intitule La Chute, et on avait essayé d'en dégager le fond philosophique. Eh bien, on va essayer de faire la même chose avec l'Antigone de Sophocle. Peut-être, Nicolas, toi, tu peux prendre la parole pour dire qu'est-ce qui t'a touché dans cette première lecture, enfin au moins dans l'extrait qui vient d'être fait.
Bien, on retrouve un dilemme que nous avons déjà rencontré dans nos précédentes aventures philosophiques, que ce soit dans le Criton ou que nous aurions dû rencontrer à l'époque où nous avions parlé de Pascal, mais nous n'avions pas abordé cette partie-là, ce sera peut-être l'occasion de se rattraper.
Oui.
L'opposition entre une décision émanant d'un pouvoir politique, auquel on est en principe soumis d'obéir, et la conception personnelle, ou partagée plus largement, de ce que doit être le bien ou le mal, de ce que doit être un agir bon et un agir mauvais. Et donc là, on se retrouve dans une situation, alors qu'on va peut-être expliciter après, où donc le chef de Thèbes, celui qui vient de prendre le pouvoir, Créon, décide d'honorer la mémoire, donc les deux frères d'Ismène et d'Antigone se sont entretués dans un combat singulier.
Donc c'est Éthéocle et Polynice.
Et Polynice, oui. Et donc Créon décide d'honorer l'un et de laisser la dépouille de l'autre aux chiens et aux vautours.
Alors, pourquoi est-ce qu'il en honore un et l'autre, il défend de l'inhumer ?
Il faut revenir en arrière.
Oui, là, alors on peut dire peut-être de vos déclarations.
On part de mon sentiment sur Antigone pour
c'est comme ça, on va reprendre un peu de contexte.
Alors, en fait, l'histoire d'Antigone, c'est la toute fin de la maison royale de Thèbes, qui commence avec Cadmos, le premier grand ancêtre, fondateur de la ville de Thèbes. Bon, il y a une histoire entre deux avec Panthée qui se bat avec Bacchus. On arrive à Œdipe, que presque tout le monde connaît, je pense, qui est meurtrier de son père, qui épouse sa mère. Et donc là, Polynice, Éthéocle, Ismène et Antigone sont les enfants d'Œdipe. Œdipe, donc, qui vient de reconnaître sa faute, qui vient de se crever les yeux, qui est parti, accompagné par ses filles, errer jusqu'à Athènes où il a été accueilli. Il est mort. Les filles sont revenues. Au moment où elles reviennent, en fait, elles arrivent au moment où la guerre civile règne à Thèbes, parce que bien que Polynice soit l'aîné, c'est Éthéocle qui a réussi à se faire proclamer roi de Thèbes, et il a chassé son frère. Son frère est allé à l'étranger, en Argos, il a réussi à lever une armée, avec 7 grands généraux qui viennent de 7 différentes villes de Grèce, dont un qui sait que le destin de ses généraux, c'est de tous mourir sauf un, mais c'est pas lui. Donc il sait qu'il va mourir, mais donc il suite à un serment dont il peut pas se dédire, il y va quand même. Et donc ils assiègent Thèbes, l'assaut se passe mal, c'est indécidable. Donc après que l'armée assiégeante a connu beaucoup de pertes, mais sachant que la ville assiégée est aussi en proie à des souffrances, donc on décide, comme on faisait souvent dans l'Antiquité, pour épargner des vies. C'est-à-dire qu'on dit, les champions de chaque armée vont s'affronter en combat singulier, et le camp vainqueur sera le camp de celui qui aura gagné le combat singulier.
Ça, c'est ce qu'on voit notamment chez Homère dans l'Iliade. Hein.
Oui, ou dans David et Goliath, c'est aussi la même idée. Donc, deux armées, les guerres antiques étaient très coûteuses en vie humaine, hein, c'était des véritables boucheries.
Non, je ne suis pas d'accord avec toi. Je pense que, excuse-moi de t'interrompre, hein, c'est juste une parenthèse. Toutes les guerres antiques, c'est rien du tout comparé à Verdun.
Au contraire, c'était très très meurtrier. Il y avait vraiment un fracas de corps.
Oui.
Les premières lignes mouraient forcément étouffées.
Oui.
Parce qu'il y avait plusieurs rangs qui s'appuyaient les uns sur les autres.
Oui.
Et il y avait très peu de protection des corps.
Mais ce qu'on appelle une bataille très meurtrière, c'est des centaines de personnes.
Ça, ouais, enfin,
tu vois, c'est pas la bataille de Stalingrad, quoi.
Bah, y a eu les batailles comme la bataille d'Andrinople, c'était des dizaines de milliers de morts.
Bon, d'accord.
Après, à l'époque de la Grèce antique, les cités étaient plus petites. Ouais. Hein, c'était pas les armées impériales.
Il faut remettre à l'échelle. Il faut remettre à l'échelle.
C'était l'échelle des cités. C'était pas des armées impériales comme on a pu le voir par la suite. Mais voilà. Et donc, en tout cas, pour épargner Vuillemel, on faisait affronter les champions. Et là, les champions, bah, c'était les gens en conflit. Donc, on a fait battre directement Éthéocle et Polynice. Et ils n'ont pas réussi à se départager jusque dans la mort, puisqu'ils se sont entretués. Et donc, du coup, le conflit ne s'éteint pas. Puisque ceux qui étaient censés le départager n'ont pas réussi à le départager. Donc, si on ne fait rien, la guerre va reprendre. Puisque le conflit est... Et donc, du coup, Créon... réussit quand même à faire fuir les armées ennemies, et pour refaire l'unité de la cité, il décide de trancher dans le vif, d'honorer Éthéocle qui a défendu sa cité, et de condamner le corps de Polynice à la putréfaction à l'air ambiant, parce qu'il a amené des armées étrangères contre sa propre cité, qu'elle est en proie aux flammes et à la destruction si elle était prise par les armées étrangères.
D'accord. Alors je vais donner la parole à Anne, peut-être... À ton tour, Anne, tu peux dire ce qui te touche ou resituer aussi certains éléments d'Antigone par rapport à ce premier passage qui vient d'être lu.
Oui, ben, par rapport à ce premier passage, on voit tout de suite qu'il va y avoir un affrontement très fort entre deux individus, entre Antigone en particulier et entre Créon. Et on s'aperçoit aussi que ces deux personnes, elles symbolisent quelque chose qui est très fort, qui est d'une part le respect des lois, le respect de la justice, qui va être un petit peu voilà demandé et symbolisé par Créon, et d'autre part le respect d'autres choses qui n'est pas évident, dont on sent que ça a trait au sacré, que ça a trait au respect de la famille, et toute la pièce quelque part est lancée.
Et tu dis peut-être qu'on y voit déjà la fin quelque part, non? Ou c'est trop le dire? Tu vois, juste une analogie, il y a des gens qui pensent...
On voit pas toute la fin, mais...
Quand on écoute les premières mesures de l'ouverture de Don Giovanni, ils disent qu'il y a tout l'opéra qui est inclus dans ça. Et puis c'est vrai qu'à force de l'entendre, dès qu'on entend l'ouverture, on se remémore tout l'opéra. Est-ce que c'est un peu la même chose avec cette ouverture d'Antigone? Est-ce que quelqu'un qui a déjà vu la pièce plusieurs fois, est-ce que d'ores et déjà tout est planté pour que la fin ait lieu?
On a l'impression qu'il y a énormément qui est planté et non seulement dans ce que dit Antigone, mais aussi dans ce que dit Ismène. Hein. Parce que Ismène, qui parle juste après, Ismène lui dit mais on n'a pas la force, on peut pas savoir. Comment veux-tu que nous allions contre Créon, que nous allions contre la justice? En plus, elle répète nous ne sommes que des femmes. Et donc, on sent qu'il va y avoir quelque chose qui va mener probablement au moins Antigone à sa perte.
Oui.
Voilà, après.
Oui. Après, on ne sait pas jusqu'où ça va
aller. Oui, on
ne
sait pas jusqu'où ça va aller.
Et toi, Sylvain, justement, cette idée-là, l'idée, alors déjà du sacré de la famille, elle t'avait paru pas claire parce que tu comprenais pas, je pense, tu étais surpris du moins que Antigone, à un moment, dise que bah, son frère, elle en a pas d'autres, alors que son mari, elle pourrait en avoir d'autres. Et puis aussi, l'histoire du destin aussi, elle te paraît aussi curieuse, c'est ça?
Alors, il y a plusieurs choses, effectivement. Bon, déjà, la trame générale, vous l'avez bien dit, hein, Nicolas et Anne, le problème, le dilemme entre suivre les lois ou s'y opposer. Si on suit Platon et Socrate, normalement, on doit suivre toujours les lois. Donc ça, c'est déjà un premier point qui est délicat.
Alors, on va discuter un petit peu de ce premier point, parce qu'on va le saisir la balle au bon. Tout à l'heure, Nicolas, quand tu as parlé d'Antigone, tu as parlé d'une vue personnelle. Oui. Est-ce que vraiment Antigone, elle agit par une vue personnelle, ou est-ce qu'elle ne se dit pas « moi, j'agis selon mon bon droit que n'importe qui d'autre ferait la même chose ?»
Oui, bien sûr. C'est une vue personnelle dans le sens où elle décide, à titre personnel, de s'opposer à la loi du gouvernant du lieu. Hein, Créon, c'est en fait le beau-frère d'Œdipe.
Oui.
Et comme la famille royale de Thèbes, enfin du moins les mâles ont tous disparu, c'est lui qui, par lien avec la famille, devient roi de Thèbes. Donc il devient le roi légitime de Thèbes, mais il s'est à noter que sa prise de pouvoir est extrêmement récente, puisqu'il ne devient roi de Thèbes qu'à la mort de Polynice et d'Étéocle. Donc il vient de devenir roi, donc il a besoin d'asseoir son pouvoir. Néanmoins, il est quand même le prince légitime du lieu, et donc ses décisions font loi. Antigone va prendre la liberté de s'opposer à sa loi. Alors, en faisant appel effectivement à des principes religieux qui ne sont pas personnels.
Voilà, si tu permets, ouais, justement, j'allais interrompre parce que, en fait, c'est pas vraiment une liberté. Elle l'exprime pas comme une liberté. Elle dit que c'est quasiment un devoir pour elle.
C'est un devoir.
Parce que justement, elle cite un peu plus loin. J'ai plus longtemps à plaire aux morts qu'aux vivants. Et donc, si elle veut faire les rites funéraires pour son frère, c'est parce qu'elle sait que elle, quand elle va mourir, elle va retrouver son frère dans l'au-delà, ce qu'on pourrait appeler l'au-delà. Mm-hmm. Et donc, voilà, et ça c'est pour l'éternité.
Dans l'Hadès, oui. Oui, Anne.
Oui, je voulais dire, il y a justement un très beau passage d'Antigone qui répond peut-être à ta question, dans lequel elle dit « Je ne pensais pas que les défenses à toi fussent assez puissantes pour permettre à un mortel de passer outre à d'autres lois, aux lois non écrites, inébranlables des dieux. Elles ne datent pas, celles-là, ni d'aujourd'hui ni d'hier, elles sont éternelles, et nul ne sait le jour où elles sont parues. »
Et ça, c'est qui est-ce qui parle là ?
C'est Antigone.
C'est Antigone.
C'est Antigone qui parle. C'est la première chose qu'elle dit à Créon, pratiquement.
C'est la première chose. Et ouais. Alors, c'est drôle parce que lorsque Aemon, le fils de Créon, parlera aussi Antigone, il lui dira quasiment la même chose. On pourra relire le.
À Créon, tu veux dire, il n'a pas parlé à Antigone. Je ne crois pas qu'Aemon parle à Antigone.
Ah, pardon, excuse-moi, j'ai fait un lapsus.
Oui, à Créon.
Oui, lorsque Aemon parle à son. Oui. Père Créon, excusez-moi, effectivement, il dira quelque chose du même ordre. Hein, Et moi, je suis très touché par ce que va dire Aemon à Créon. Donc,
pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, le fait que... Donc, en fait, elle se sent obligée de faire ça. Par contre, effectivement, ce qui est un peu... Moi, ce qui m'a surpris à un moment donné, c'est que Antigone semble expliquer que si elle fait ça, c'est parce que les deux sont morts, mais l'autre il est déjà avec les rites ont été faits pour lui. Mais pour ce frère-là, elle doit faire les rites parce qu'elle n'aura plus d'autres frères. Ses parents sont morts, et donc elle n'aura plus la possibilité d'avoir d'autres frères.
Oui.
Par contre, effectivement, si ça avait été un mari ou peut-être même si ses parents avaient été encore vivants, elle aurait pu avoir éventuellement un autre frère ou un autre mari. Si on a l'impression que ce qu'elle dit, c'est que finalement, elle fait les rites, elle veut faire les rites pour son frère-là, parce qu'elle n'aura plus jamais le moyen de le remplacer d'une certaine façon. Et ça paraît très étonnant.
Ça paraît étonnant.
Enfin, dans tous les cas, ça aurait été une impiété. Simplement, ce qu'elle dit, c'est qu'elle ne serait pas allée jusqu'à aller contre les lois de l'État dans ces cas-là, effectivement.
Chemin de pensée sur RCF.
Alors, nous reprenons la discussion au sujet d'Antigone. Donc, nous en étions arrivés à ce point de s'interroger qu'est-ce qui donne cette force à Antigone pour se dresser face au dictateur qu'est Créon. Alors, on rappelle que forcément, il ne faut pas prendre dictateur dans un sens uniquement négatif, puisque tu l'as bien rappelé, Nicolas, c'est aussi dans le bien de Thèbes que Créon lance cet édit.
Il agit en tant que prince légitime de Thèbes, effectivement, puisqu'il a pris le pouvoir régulièrement.
Voilà.
Dans une succession un peu mouvementée, mais néanmoins, il est la personne la plus titrée pour succéder au fils d'Œdipe.
Alors, la question que je vous pose, c'est est-ce que, justement, vous y voyez une sorte de défense de la démocratie ou comment interpréter le geste d'Antigone?
Déjà, le geste, c'est au départ, elle est outrée au plus profond d'elle-même de cette décision qu'elle trouve injuste et impie. Hein, c'est-à-dire que les morts pour les Grecs descendent dans l'Hadès, doivent passer un fleuve, l'Achéron, et pour ça doivent faire appel à un nocher qui s'appelle Charon et qui les fait traverser jusqu'au royaume des morts. Et pour ça, ils doivent avoir dans la bouche de quoi payer leur passage et ils doivent avoir eu une sépulture. Sinon, donc, ils n'embarquent pas pour le royaume des morts, et ces âmes vont errer. Alors, c'est peut-être pire pour eux encore que chez les Grecs, le royaume des morts, c'est pas spécialement affriolant, du moins dans la mythologie classique. Les âmes n'ont pas vraiment d'existence dans le royaume des morts. Mais ça peut être un danger pour les vivants. C'est-à-dire que si les morts ne sont pas clairement séparés des vivants, ils peuvent à nouveau s'y mélanger, et risque de hanter les lieux, de venir troubler l'ordre des vivants. Donc, en quelque sorte, pour Antigone, la décision de Créon, c'est une impiété. Le devoir de sépulture était dû à la fois aux gens de la famille, mais aussi aux étrangers qui venaient mourir à proximité. On le devait à tous. Il n'y avait pas de jugement moral lié au fait qu'on donnait une sépulture ou pas. C'était aussi une manière pour les vivants de se protéger des morts.
Sylvain, toi, tu voulais dire quelque chose sur... Peut-être tu peux nous dire un mot sur... Les Himba, ce peuple d'Afrique dont t'as été écouté une... parce qu'ils ont aussi un rapport aux ancêtres assez particulier qui les définit. Ça peut être intéressant de faire un parallèle.
De ce que j'en ai compris, oui, effectivement. Donc, j'ai eu la chance d'aller voir une présentation pour justement, là, j'en profite pour en parler, d'une BD qui va sortir qui s'appelle Rouge Himba, qui est faite par Solène Bardet et Simon Huro. Et donc, qui présente justement, alors c'est intéressant parce qu'en plus, c'est sur un ton un peu humoristique. Et donc voilà, ça présente toute la culture et la façon de vivre du peuple Himba, qui est un peuple semi-nomade en Namibie du Nord-Ouest. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un peuple qui a préservé un peu sa façon de vivre et qui reste relativement, on va dire, dans son style de vie par rapport à notre vie à nous, enfin à notre société, on va dire. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Et un des éléments que j'avais retenu, effectivement, c'est que ces gens-là, apparemment, ont un lien très fort avec leurs ancêtres. Hein, ce que j'en ai compris, c'est que la divinité pour eux est quelque chose d'inaccessible, directement. Et du coup, c'est les ancêtres qui font le lien entre le divin et eux. Donc, ils ont un lien très fort au respect des ancêtres, quoi. Et les Himba, apparemment, de ce que j'en ai compris, se définissent au moins en partie par les liens qu'ils ont avec leurs ancêtres. Et donc c'est rigolo parce qu'on retrouve ici typiquement ça, le lien d'Antigone avec son frère.
Oui.
C'est du même ordre, on a l'impression que c'est vraiment du même ordre. Quoi.
Il y a quelque chose évidemment de primitif, mais dans le bon sens du terme. Et c'est peut-être pour ça que Sophocle nous remue, c'est-à-dire quand on... parce qu'il fait appel à quelque chose de fort. Toi aussi Anne, tu avais été touchée par cette... présence-absence de la mort tout au long de la pièce.
Oui, donc évidemment, la mort, c'est le centre de la pièce, hein, puisque déjà, Antigone veut rendre hommage aux morts et veut qu'ils puissent descendre dans le royaume des morts. Et il y a aussi quelque chose d'assez particulier, c'est-à-dire que finalement, un des héros principaux de la pièce, qui est ce frère qui est mort, eh bien, on ne le voit jamais. C'est un peu comme la Rénédienne, donc il est toujours là, il est omniprésent, on ne parle que de lui, mais on ne le voit jamais. C'est quelque chose qui m'a assez frappée.
Et justement, est-ce que l'expérience de voir Antigone, si la pièce a été sans cesse rejouée, si ça nous touche, est-ce que c'est pas parce que de nos jours, notre rapport à la mort est assez faible et qu'on n'a pas grand-chose à dire sur la mort et que ça nous rappelle ça enfin, est-ce qu'on vit pas aussi dans un temps qui n'a pas grand-chose à dire sur la mort? Est-ce que vous seriez d'accord avec ça pour finir?
Difficile. Ce qui est sûr, c'est que le rapport aux ancêtres, lui, il est quand même, je pense, assez universel.
Mais toi, tu penses souvent à tes ancêtres?
Oui, enfin, oui, ça m'arrive. Moi,
je pensais que tu allais dire que le rapport a été distendu de nos jours.
Mais bizarrement, les gens vont encore très largement fleurir les tombes du cimetière à Poussin, alors même qu'ils sont plus spécialement...
Oui, mais ça c'est juste le parent, tu vois, c'est parents, limite grands-parents, mais, oui, mais là en fait, c'est vraiment être dans une lignée.
Les proches disparus, oui, on y pense. Oui, on a quand même un respect, une pensée qui reste. Après, par contre, pour sa propre mort, là, effectivement, c'est quelque chose de très différent.
Bon. Eh bien, chères auditrices, chers auditeurs, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines, puisque l'émission est désormais bi-hebdomadaire. Et nous continuerons à discuter de ce texte magnifique de Sophocle, enfin, cette pièce-texte de Sophocle qui est Antigone. Nous vous invitons à la lire, évidemment, dans une traduction bilingue, enfin, avec le texte bilingue, si vous le souhaitez. Il y a la traduction de Jean Lauxerrois, la collection Pocket qui peut valoir le coup, la traduction Mazon, c'est la traduction classique que nous avons lue. Merci à toutes et à tous, merci à Dominique Herpelding pour la technique et rendez-vous dans 2 semaines.